Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 7. Et aujourd'hui, je voudrais lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 41 et vous parler des fleuves d'eau vive, de quoi il s'agit. Ici, toujours, à la fête des tabernacles, le Seigneur Jésus, le dernier jour, verset 37, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, verset 40, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» Alors, nous allons arrêter la lecture là pour voir en profondeur, par la grâce de Dieu, ce que signifie cette déclaration du Seigneur Jésus que nous trouvons ici dans le verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, c'était le dernier jour de la fête, et ici c'est appelé le grand jour de la fête, surtout peut-être que c'était le dernier jour de cette fête où les gens devaient se réunir selon l'Ancien Testament pour célébrer la fête des tabernacles. Nous avons vu ça dernièrement dans Lévitique chapitre 23 et le verset 36. Donc, en ce jour-là, il y avait toute une grande foule qui était là et c'est le Seigneur qui décide, comme même aujourd'hui, quand il va adresser sa parole et à qui il va adresser sa parole. Parfois, nous imaginons que toute occasion est bonne pour annoncer l'Évangile, mais nous devons savoir que c'est selon la direction et la volonté du Seigneur qu'il dirige sa parole où il veut et quand il veut et à qui il veut. Mais ce jour-ci était le jour où il trouve bon de se lever et faire cette déclaration. Rappelons-nous que ses frères qui ne croyaient pas en lui au départ voulaient qu'il monte à Jérusalem et qu'il se manifeste. Mais nous devons savoir que Christ ne se manifeste pas selon les dictées des hommes, mais selon sa propre volonté. Donc, il a fait cette déclaration dans le verset 37, à laquelle est liée maintenant la suite dans le verset 38. Nous devons faire attention toujours de garder le contexte quand nous lisons la Bible, parce qu'aujourd'hui, le verset 38 est surtout un des versets favoris des gens qui veulent toujours dire qu'il y a une bénédiction de l'Esprit que nous devons anticiper en plus de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur pour la conversion des pécheurs. Et donc, ils mettent l'accent toujours dans leur prédication sur cette expérience qu'il faut chercher et de baser sur la parole pour avoir cette promesse que si quelqu'un croit en Christ, alors des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et nous devons comprendre cela dans le contexte. D'abord, dans le verset 37, si quelqu'un a soif, d'où vient la soif? Il faut d'abord la vie. Ceux qui sont morts n'ont pas la soif. La soif est une preuve de vie. Donc, quand c'est écrit ici, si quelqu'un a soif, il s'agit ici d'une soif spirituelle que seulement l'Esprit peut donner. Donc, cela est important pour nous de savoir, pour mieux comprendre le verset 38 et surtout le verset 39, quand Christ dit « car l'Esprit n'était pas encore ». Dans quel sens l'Esprit n'était pas encore? Nous allons voir ça. Parce que nous savons que sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut croire. Et sans l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la vie, personne n'aurait cette soif, surtout une soif pour Christ, qui est l'eau de vie. Et nous avons déjà vu ça dans Jean chapitre 4, dans notre étude, et le verset 13 et 14. Christ a déjà fait cette déclaration, surtout à la femme samaritaine. Jésus lui répondit, verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Et nous pouvons dire que si quelqu'un dépend des traditions ou bien des pratiques personnelles ou bien basées sur des efforts personnels pour apaiser une soif, il y aura toujours la soif. Mais verset 14 de Jean 4 nous dit, Christ a dit à la femme, « Celui qui boira de l'eau, notez bien, que je lui donnerai, n'aura jamais soif, dans le sens que n'aura jamais soif pour autre chose que cette eau. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Donc, c'est la même expression que nous trouvons ici dans Jean chapitre 7 et le verset 37. Et c'est important de comprendre si quelqu'un a soif. À qui est-ce que Christ s'adresse ici? Il s'adresse à ceux à qui il a déjà donné son esprit. Donc c'est évident que l'Esprit de Dieu agissait déjà dans les cœurs de ces pécheurs pour qui Christ est venu dans ce monde. Et donc dans le verset 39, lorsque nous arrivons là, nous pouvons comprendre alors dans un autre sens où c'est écrit « l'Esprit n'était pas encore ». C'est évident que l'Esprit est depuis l'éternité. L'Esprit résidait dans le Seigneur Jésus-Christ et déjà le Seigneur Jésus donnait son Esprit à des pécheurs qui s'approchaient de lui, autrement ceux-là ne pouvaient jamais s'intéresser à lui et s'approcher. Donc, si quelqu'un a soif dans le sens d'avoir soif pour Christ, parce que là où l'Esprit œuvre, il attire toujours le cœur à Christ pour apaiser cette soif, Christ qui est l'eau de vie. Et donc, quelqu'un en qui l'Esprit est déjà, par la grâce de Dieu, la preuve c'est cette soif, la soif pour Christ, la soif pour le pardon du péché qui est en lui, la soif pour la justice que Christ est venu établir et accomplir à l'égard du peuple que le Père lui a donné. depuis l'éternité, une soif de mieux connaître Christ. On ne peut jamais être satisfait de ce que nous connaissons. C'est comme une relation avec quelqu'un que nous aimons. Nous désirons toujours le connaître davantage. Et la soif d'être accepté par lui, ce n'est pas une question pour moi de l'accepter, mais d'être accepté par Christ. Et voilà la soif qui est en ceux en qui Christ a déjà mis son esprit. Comme il a dit à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Ça, c'est une eau qui n'est pas à la disposition des hommes selon leur volonté, mais selon la volonté de Christ. Et il donne cette eau, c'est-à-dire lui-même étant cette eau, il se révèle dans ces pécheurs-là que le Père lui a donné depuis l'éternité. Et dans la Bible, nous voyons d'autres passages qui parlent de cette soif. Par exemple, dans le psaume, chapitre 42, et le verset 1, nous lisons « Comme une biche, c'est le verset 2, soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face de Dieu? Voilà le désir que nous voyons par l'Esprit en ceux qui sont pour le Seigneur, c'est-à-dire qu'il est venu les racheter, les pécheurs élus, donnés à Christ par le Père avant les temps éternels. Ils sont identifiés par cette soif, là où nous ne voyons pas en quelqu'un cette soif pour Christ et pour mieux connaître ce qu'il a accompli pour des pécheurs tels que nous sommes, alors nous pouvons conclure que de telles personnes sont encore mortes dans leur péché. C'est possible qu'il soit Dieu, c'est possible que Christ ait versé son sang pour eux, mais il n'y a pas encore cette évidence à travers la soif que Christ donne à ceux qui lui appartiennent. Aussi dans Matthieu chapitre 5 et le verset 6, Christ a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Car ils seront rassasiés. Quelle justice? Nous n'en avons pas. Mais il s'agit là de la justice que le Seigneur Jésus lui-même est venu mériter par sa vie d'obéissance et par sa mort expiatoire. Et ainsi, Dieu le Père justifie une fois pour toutes. Il a justifié une fois pour toutes ceux pour qui Christ est mort. Et encore, l'évidence, c'est lorsqu'il donne son esprit. Il met son esprit en eux. Il leur donne de cette eau vivante. Et ils ont soif, alors, pour Christ. Donc, voilà la première partie dans Jean 7 et le verset 37. Si quelqu'un a soif, ça suppose que c'est pas tout le monde. Évidemment, parce que ce n'est pas à tous que Dieu donne son esprit. Mais si quelqu'un a soif, deuxièmement, c'est écrit qu'il vienne à moi. Venir à Christ, notez bien, à moi. Il est en train de parler à des gens qui sont venus au temple, ils sont venus suivre des cérémonies selon la loi, et ils sont là, exerçant des efforts, pensant par leur obéissance avoir une place auprès de Dieu. Mais Christ montre par cette déclaration que c'est possible de venir à des cérémonies et suivre des traditions et même s'efforcer à mettre en pratique la parole de Dieu sans venir à Christ. Et là, je dois dire qu'il y a toute une génération aujourd'hui que cela implique, parce qu'ils sont zélés pour une justice que eux-mêmes, ils cherchent à produire, mais ça, ce n'est pas venir à Christ. Dans Romains chapitre 10, et les premiers versets que l'apôtre Paul a adressés aux Romains, il dit « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Donc on doit s'arrêter là pour poser la question, qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu est manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui seul est venu accomplir toute la loi et toute la justice de Dieu à l'égard de ce peuple que le Père lui a donné. Et c'est pourquoi le verset 4 dit, car Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire, ceux pour qui Christ a accompli la loi, donc la loi n'a plus de raison d'être parce que c'est accompli. Et c'est pour la justification de tous ceux qui croient. La manière de lire ça, c'est que tous ceux qui croient, évidemment, c'est Dieu qui leur a donné son esprit pour qu'ils croient. Parce que sans l'esprit, personne ne peut croire. Et ça, c'est la preuve alors qu'ils ont été justifiés lors de la mort de Christ à la croix à leur égard. Christ le substitue, le représentant devant Dieu pour eux. Donc, revenons dans Jean 7 et le verset 37. Avoir soif signifie venir à Christ. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a soif, comme c'est désigné ici, tout en cherchant encore par son obéissance personnelle à être accepté devant Dieu, sur la base des œuvres. Une telle personne a soif peut-être pour gagner le ciel de sa manière, mais ce n'est pas la soif que Christ donne. Venir à Christ, c'est de croire en lui et recevoir Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures et de n'avoir confiance en personne d'autre ou en aucune autre œuvre que l'œuvre de Christ et Christ seul. Nous voyons cela dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et le chapitre 3, lorsqu'il décrit ici ce que c'est d'être un véritable juif, ceux à qui Christ a annoncé cette parole, ils étaient fiers de leur héritage, ils mettaient confiance dans leur tradition, et surtout le fait qu'ils étaient des circoncis physiquement. Ils ont eu la circoncision, et pour eux, c'était un sujet de gloire. Mais Paul dit ici, dans Philippiens chapitre 3, le verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte, notre bien, par l'Esprit de Dieu. » C'est impossible de rendre à Dieu un culte agréable en dehors de l'Esprit de Dieu. Et c'est écrit qui nous glorifions en Jésus-Christ. Vous voyez, il ne s'agit pas ici d'une circoncision physique, mais du cœur. Comme la soif ici est une soif spirituelle qui emmène quelqu'un à Christ tel qu'il est révélé et qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Quand il s'agit de notre pardon, c'est Christ. Quand il s'agit de notre justification, c'est Christ. Quand il s'agit de notre sanctification devant Dieu, c'est Christ. Quand il s'agit de notre glorification devant Dieu, c'est Christ. Notre paix, c'est Christ. Il est notre tout. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et puis, notez bien la troisième partie de Philippiens 3:3, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On ne se confie jamais dans cette chair. Il y en a qui raisonnent, oui, il nous faut Christ d'abord pour le salut, mais après, maintenant, il nous faut des efforts personnels pour continuer à croire. Non, nous dépendons du Christ du début jusqu'à la fin, en toutes choses. Et nous ne mettions jamais la confiance dans la chair. On ne peut jamais arriver un jour à dire, ah, je suis arrivé à un tel niveau dans ma vie spirituel maintenant où j'ai moins besoin de Christ que lorsque j'ai commencé. Une telle personne n'a même pas commencé encore. Une telle personne est encore morte dans leur incrédulité. Donc, avoir soif, c'est venir à Christ, et puis, dans le verset 37, ça continue, et qu'il boive. Quelqu'un qui a soif et qui est dirigé vers l'eau, il boit. On ne doit pas insister ou bien donner d'autres instructions de ce qu'il faut faire. Celui qui a soif boit. Donc, cela veut dire de recevoir ouvertement et sans cesse toutes les bénédictions que la Bible nous révèle au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ est selon la grâce infinie de Dieu en lui. Notre justification est complète. Une fois justifié, quelqu'un qui est justifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais arriver à un point maintenant où il n'est plus justifié. Être justifié, c'est une fois pour toutes, et c'est de cette doctrine, c'est de cette révélation de Christ que nous continuons à boire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a tirés vers lui au début, et c'est l'Esprit de Dieu qui continue à nous attirer à ce Christ qui est révélé dans les Écritures. Il n'y a jamais un temps où nous ouvrons cette parole que nous n'avons pas soif de le connaître davantage et en lisant, même comme je fais maintenant, en vous annonçant cette parole, cette soif est apaisée. Nous sommes en train de boire cette parole, la plénitude de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est cette grâce qui fait notre vie. Dans l'Épître de Paul aux Colossiens et le chapitre 2, versets 9 et 10, nous lisons ceci concernant Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que nous devons comprendre de Dieu réside dans le Seigneur Jésus. Et donc, même dans cette parole, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous lisons la parole, mais Christ est la parole. Donc, en lisant et par l'Esprit, en comprenant comment cette parole s'agit du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de boire de lui. Parce que verset 10 de Colossiens 2 dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ceux qui prennent la parole pour prêcher autre chose que Christ et Christ crucifié ne prêchent pas la parole. Bien vrai, ils tiennent une Bible dans leurs mains et ils ouvrent la bouche et ils annoncent leur texte et des paroles sortent de leur bouche. Mais si ce n'est pas de diriger les auditeurs comme Christ fait ici, il nous donne l'exemple dans Jean 7, toutefois qu'il se levait pour prêcher ou bien annoncer, faire une déclaration, c'était à son sujet. C'est pourquoi il dit Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et ce qui est supposé par là, c'est qu'il boive de moi. Donc, je ne peux pas savoir quand je prêche qui a soif, qui n'a pas soif, mais ça deviendra évident qui a soif en ceux qui viennent à Christ. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes, c'est toujours l'Esprit qui les attire, mais de toutes les façons, c'est l'évidence que l'Esprit de Dieu est en eux. Alors ça, c'est le contexte de ce passage maintenant que nous allons voir dans le verset 38. Il faut savoir que la loi, les sacrifices, les cérémonies ne peuvent pas donner la vie. Les traditions des hommes, tout ce que les gens poursuivent, suivre, ce sont des œuvres mortes selon les Écritures. Mais il faut dire que la loi, ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais la loi montrait de droit le Seigneur Jésus, celui qui devait venir, ainsi que les sacrifices et aussi les cérémonies. C'était des symboles, des types du Seigneur Jésus-Christ et de celui qui devait venir. Et c'est pourquoi c'est au moment de cette fête que Christ s'est levé réellement pour annoncer aux gens la raison d'être de cette fête et de toutes les fêtes. Cette fête concernait sa personne. Et c'est pourquoi il dit, dans le verset 38, celui qui croit en moi, voyant même dans ses sacrifices et ses cérémonies, une photo, une image du Seigneur Jésus-Christ, et ceux en qui l'Esprit révèle Christ, y croiront. Et ceux qui croient alors, ça c'est le sens du verset 38, c'est-à-dire ceux qui viennent à Christ, étant attirés à Christ par l'Esprit et cette soif, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Où est-ce que cela est dit dans les Écritures? Si vous allez dans Ésaïe, chapitre 12, et le verset 3, nous allons voir cela. C'est écrit de ceux de l'Ancien Testament, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Donc Christ est cette eau que son peuple puise avec joie et c'est écrit aux sources du salut. C'est lui qui est la source du salut. Le salut vient de lui, c'est en lui, c'est pour lui, et c'est pour sa gloire. Alors, tout en disant cela, Christ est en train d'annoncer qu'il est l'accomplissement de tout ce que ses Écritures annonçaient d'avance. Et celui qui croit en lui explique le sens de ce que c'est venir à Christ et boire de lui. Donc, il faut préciser alors que ce qui est le résultat de cette œuvre de grâce dans le pécheur est expliqué par des fleuves d'eau vive qui coulent de son sein. Évidemment, il s'agit ici de quelque chose de spirituel, parce qu'on ne voit pas littéralement des eaux qui coulent du sein de quelqu'un, mais il s'agit spirituellement qui coule de son sein. Cela veut dire du fond du cœur, de son être. Où est-ce que l'Esprit de Dieu œuvre dans un pécheur? C'est dans son cœur. Voilà ce qui fait la différence, parce qu'il y a beaucoup qui honorent Dieu avec leurs lèvres, mais comme Christ a dit, leur cœur est loin de lui. Ça, c'est ici l'explication d'un cœur qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Et ce qui coule de son sein, c'est la foi. La foi ne vient pas de l'homme, c'est le don de Dieu. Mais c'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui révèle Christ dans le cœur. Un tel pécheur en qui Christ est révélé croira en lui. C'est pourquoi c'est écrit celui qui croit en moi. Et le sens au présent des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire une fois que cette foi est donnée, c'est pour toujours. Ce n'est pas une question de croire aujourd'hui et puis demain ne plus croire. Et aussi, celui qui vient à Christ continue à venir. Exactement comme la soif dirige quelqu'un vers l'eau, nous continuons à venir à Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « Ah oui, mais quand j'étais plus jeune, j'ai fait ma profession de foi et je suis venu, j'ai pris ma décision et alors c'est tout ce qui est nécessaire. » Non, nous continuons à venir à Christ parce que c'est lui, comme c'est écrit dans Ésaïe 12:3, il est la source du salut. C'est mis au pluriel là dans Ésaïe 12, les sources du salut. Et donc en lui, nous trouvons non seulement la foi, mais nous trouvons la justice de Dieu déjà accomplie, nous trouvons une expiation complète dans sa mort, nous trouvons le sauveur, le médiateur, nous trouvons l'avocat, quel que soit notre péché, si Christ a payé notre dette, alors nous avons un avocat en lui auprès du Père. Et voilà les bénédictions, donc, qui sont expliquées, des fleuves d'eau couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, on ne peut pas arracher de quelqu'un ce qu'il a bu ou ce qu'il a mangé. Peut-être qu'on peut me déshabiller et prendre tout ce que j'ai, mais ce que j'ai mangé déjà, aujourd'hui, ce que j'ai déjà bu et entré en moi, c'est impossible de retirer cela. Et c'est la même chose en ce qui concerne le salut en Christ. Rien ne peut nous arracher ce salut. Parce que c'est en nous. Donc, celui qui croit en Christ, de son être, au sein de son être, cette eau vive continue à couler. Et nous trouvons toujours, tous les jours, en Christ, tout ce qui est nécessaire en ce qui concerne sa grâce, en ce qui concerne sa miséricorde et la paix. En Jésus-Christ. C'est comme une fontaine de grâce qui agit toujours et qui coule toujours sans fin. Et c'est là toujours pour notre satisfaction, pour notre confort et cela pour la gloire de Dieu. Telle est la bénédiction qui est la nôtre en Jésus-Christ. Et si on avait le temps, vous pouvez lire tout le premier chapitre d'Éphésiens chapitre 1, parce qu'il dans ce chapitre, nous voyons ces bénédictions qui sont annoncées comme cette eau vive qui coule de notre sein. Lorsque nous comprenons notre état devant Dieu étant élu, quelle bénédiction! C'est écrit dans Éphésiens 1 et le verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. » Quand les gens vous disent, parfois on dit ça ici, « Sois béni !» J'aime dire en réponse, mais c'est trop tard, je suis déjà béni en Jésus-Christ. C'est mis comme ça, comme un fait accompli, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quelqu'un qui nie l'élection, qui nie que la source de son salut est en Dieu et en Dieu seul par sa grâce, quelqu'un qui nie cela n'a jamais eu l'Esprit de Dieu. Ceux en qui l'Esprit réside en venant à Christ et de venir à lui, sachant que c'est lui qui est le Sauveur. C'est lui qui est la bénédiction. C'est en lui qui est cette grâce et non pas en nous. Il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La sainteté, cette justice n'est pas en nous-mêmes, c'est en Christ. Alors, voilà encore cette bénédiction qui continue à couler une fois révélée au cœur de nos saints, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Voilà cette eau qui coule de notre sein lorsque l'Esprit a révélé Christ en nous. Et la preuve, c'est cette soif. Pour Christ et de lui donner davantage la gloire. Maintenant, ce verset 39 qui est très important, où il dit cela, c'est écrit de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Encore, nous devons comprendre cela dans son contexte, parce que d'autres lisent ça, disent, ah voilà, il faut d'abord croire et alors, maintenant, l'Esprit sera donné. Mais ici, dans ce contexte, verset 39, nous avons déjà vu que personne ne peut croire sans que l'Esprit ne soit déjà en lui. Mais il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, c'est en train de parler d'un événement encore futur. Et qui dépend maintenant de Christ, qui devait être glorifié à travers sa mort, parce que tout le verset, il faut lire l'ensemble, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ici, il s'agit non pas d'une révélation de Christ dans le cœur, par l'Esprit de Dieu, parce que cela se passait déjà, mais il s'agit ici du baptême de l'Esprit qui devait avoir lieu après que Christ est mort et ressuscité et monté au ciel. Donc, il s'agit ici, comme le prophète Joël a annoncé, et que Pierre lui-même dans Actes chapitre 2 avait déclaré, était accompli ce jour de Pentecôte, que lorsque Christ est monté au ciel, il devait maintenant donner son esprit, et c'est pour ça que Christ, avant de monter au ciel, a dit à ses disciples d'aller à Jérusalem et d'attendre la promesse de l'Esprit. Cela dans Actes chapitre 1 et le verset 8. Et vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, ici, dans Jean 7, 39, il s'agit de cet événement qui devait avoir lieu comme preuve que Christ a effectivement accompli tout ce que Dieu le Père lui a donné de faire en tant que le représentant de son peuple. Et la preuve que Christ a effectivement accompli cette œuvre du salut devait être par ce don de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, qui devait être sur toute chair à cette époque. Et dans Actes chapitre 2, verset 16, Pierre donne cette explication, il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, Christ, sans mentionner Joël, mais comme il dit dans le verset 38, comme dit l'Écriture, Christ qui est la parole ne fait que citer les Écritures, dont lui-même il est l'auteur. Et ici, sans mentionner Joël, mais il dit, cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, cela veut dire, il y avait un ordre que Christ devait d'abord venir et accomplir tout ce qui était annoncé et prophétisé de lui, accomplir la justice de Dieu, monter au ciel, et puis, maintenant, l'Esprit devait être effusé sur ceux qui croiraient en lui. Et c'est ce que nous lisons ici dans Actes 2. Dans les derniers jours, le verset 17, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cela ne veut pas dire tous les individus, mais toute chair dans le sens ethnique, que ça soit juif ou grec. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le sens de prophétiser, là, cela veut dire déclarer. Homme comme femme, en qui l'esprit a été donné, a annoncé les merveilles de Dieu en Jésus-Christ, rendre ce témoignage selon les Écritures. Toute prophétie est selon les Écritures. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils prophétisent, mais ça n'a rien à voir avec les Écritures. Je suis présentement en train de prophétiser. Je ne suis pas en transe, mais selon l'Esprit qu'il donne cette parole, j'annonce Christ. Et c'est ce que les Écritures disaient devait se passer en ce jour-là. On pouvait suivre tout le message de l'apôtre Pierre, mais je voudrais résumer le tout ici vers la fin bien le milieu de son message, dans Actes chapitre 2. Et le verset 36, cette effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça pouvait, verset 36 d'Actes 2, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Alors voilà de quoi Christ parle ici dans le verset 39, que cet Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, il était en train d'annoncer ce qui devait arriver après sa mort et résurrection et ascension. Et si c'est écrit car l'Esprit n'était pas encore, cela ne veut pas dire que l'esprit n'existait pas encore, ou bien n'était pas déjà à l'heure dans le monde, mais dans le sens de cet événement qui a eu lieu le jour de Pentecôte, par ce baptême de l'esprit qui annonçait effectivement avec certitude que Dieu a fait Seigneur, fait de Christ Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, le temps est déjà passé et nous n'avons pas pu voir les versets qui suivent, mais nous allons, Dieu voulant, prendre cela la prochaine fois. Ma prière, c'est que ce que nous avons déjà entendu, le Seigneur daigne bénir pour notre édification et pour notre confort dans le Seigneur Jésus lui-même. Amen.